Lorsqu'on se promène, des fois on est content d'avoir des poteaux indicateurs. Et lorsqu'on était en vacances, on a trouvé des poteaux qui nous amenaient à cet endroit, la fin du monde. Heureusement, ce n'était pas la fin du monde. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des poteaux qui nous indiquent une direction. Et parfois, les êtres humains peuvent être comme un poteau indicateur. Et ce matin, on va voir quelqu'un qui est le poteau indicateur, comme ça, qui nous indique la direction. On est tout à fait à l'autre bout de ce que Freddy a dit. On est encore avant que Jésus-Christ entre en action. À Lens, on commence une série avec l'évangile de Jean. Et donc, le thème du début, c'est rencontrer Jésus, le Fils de Dieu. Et avant que Jésus vienne, il y a quelqu'un d'autre qui était là. Et nous, parfois, on fait la distinction Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette distinction. Hein, donc, après l'Ancien Testament, commençait tout de suite les écrits du Nouveau Testament. Bien sûr, l'Ancien Testament existait avant. Mais voilà, on fait parfois des distinctions différentes. Ce matin, on verra le thème « Jésus est le Messie promis et les premiers disciples ». Et pour ça, je vous propose de lire des textes. Je les affiche normalement. Ouais, j'ai un peu du mal à les lire depuis d'ici. Peut-être quelqu'un veut les lire ?
J'arrive du mauvais côté.
Venez, venez. C'est bon, la porte est ouverte.
Merci. Bonjour, excusez-moi. Excusez-nous.
Il y a encore des places, je pense. Ouais.
Se rend un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui.
Merci. Voilà, il y a Jean qui est un témoin. Donc, au début de l'évangile de Jean, Jean parle de Jean-Baptiste. D'accord ? Donc, chaque fois qu'on lira Jean, c'est Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean. Parce que Jean ne se nomme jamais lui-même dans l'évangile. Il dit toujours un autre disciple ou quelqu'un d'autre, etc. Voilà. Donc, Jean-Baptiste qui est venu. Et le deuxième texte, je crois que je vais avancer un peu. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il confessa sans le nier, il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ ». Et lui demandèrent, « Qui donc ? Es-tu Élie ? » Il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Et il répondit, « Non. » Alors, on voit ici les gens qui ont commencé à se poser des questions. Et la suite du texte, il lui dit alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. ils sont en fait en attente du Messie. Le peuple juif attend d'ailleurs toujours le Messie, mais à l'époque, ils l'attendaient avec impatience parce qu'ils étaient dans un pays occupé par des Romains. Et ils attendaient le libérateur. Et le voilà que Jean arrive, mais il n'arrive pas à Jérusalem. Il arrive dans un lieu désertique. Et là, il commence son ministère. Et du coup, puisque beaucoup de monde va le voir, les pharisiens ou les responsables du peuple, en tout cas les responsables religieux, ils envoient une délégation vers Jean. Ils veulent savoir « Qui es-tu ?» Mais le « Qui es-tu ?» ce n'était pas la question « Qui est ton papa et qui est ta maman ?» Ils le savaient. Hein. Ils avaient quelqu'un qui s'appelait Zacharie, hein, qui était souvent un sacrificateur, et Jean était son fils. Donc forcément, les responsables juifs le connaissaient. Mais ils voulaient savoir avec cette question « « Es-tu le Messie ?» Et on a lu, il dit non. Ils ne sont pas satisfaits de la réponse. Et ils demandent, « Est-ce que tu es Élie ?» Pourquoi ils demandent ça? En fait, parce que c'est une promesse de Malachie. « Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel. » Jour grand et redoutable. Donc ils se basaient sur ça et se disaient ça. Alors ça doit être Élie. Élie, non, je ne le suis pas. On n'a pas le temps de développer parce qu'après il y revient plus tard. Jésus revient sur ça. Mais il a dit non. Alors ils ont encore une solution. Ils connaissaient quand même bien les Écritures. Est-ce que tu es le prophète? C'était quelque chose qui venait en Deutéronome. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi entre les frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui demanderai. Commanderai. Et Jean dit, encore une fois, non. Alors là, il commence à se poser des questions. Et il pose la question, mais qui alors? Que dis-tu de toi-même? Et Jean commence à leur parler. Et je trouve ça intéressant, quand on lit toute l'histoire, on n'a pas le temps de lire tout ce qui concerne le Jean. Mais il parle du royaume de Dieu. Il dénonce le mal qui est fait dans la société. Et il est rempli de miséricorde envers les pécheurs qui se repentent. Mais il ne se place jamais au centre. Il ne veut pas être la personne centrale. Et s'il avait dit oui à une de ces questions, tout de suite, il aurait été le centre de tout l'intérêt. Et ce n'est pas ça qu'il voulait. Il avait un autre ministère. Il veut préparer la route pour quelqu'un, pour une personne. Et ça aussi, c'est basé sur Ésaïe, sur un prophète. Une voix crie dans le désert, « Ouvrez le chemin de l'Éternel !» Je coupe quelques versets. Une route pour notre Dieu, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois le verra. Dans notre texte qu'on a lu, c'était aussi « Préparez-vous, préparez le chemin du Seigneur ». Alors là, la délégation qui venait à lui pour avoir des réponses, il leur dit, préparez-vous. Ils sont concernés par le message de Jean. Donc, il est ce fidèle témoin, ce poteau d'indicateur vers le Messie, vers la lumière, vers celui qui va venir, vers Christ. Et quand on poursuit le texte en Jean, on voit qu'ils ne sont toujours pas satisfaits de la réponse de Jean. Et ils poursuivent leur interrogatoire et demandent « Mais pourquoi alors baptises-tu ?» En fait, Jean a fait une innovation et cette innovation les dérange. Ils connaissaient le lavage rituel où il fallait se laver, où il fallait, quand on était malade, par exemple, se laver. Et la consécration des prêtres passait par un lavage, etc. Mais c'était là le cadre du lavage. Et là, Jean, il est ailleurs, dans un ruisseau, quelque part, au Jourdain, il me semble. Et il fait ce rituel d'une manière inhabituelle, et pour tout le monde, pas pour ceux qui étaient juste malades. Et je trouve ça intéressant. Il le fait parce qu'il veut dire « Vous êtes concernés, tous. » Jean prépare son auditoire à rencontrer quelqu'un. Et c'est aussi tout son message. Et c'est ce qu'il dit aussi à la délégation. Ils sont concernés, préparez-vous pour rencontrer quelqu'un, celui qui va venir. Mais préparez-vous. Les gens étaient conscients que les péchés, ça ne convient pas tout à fait. Pour préparer la venue de celui qui était saint, qui était l'envoyé de l'Éternel. Donc, ils avaient le désir de se repentir, de trouver le pardon. Donc, s'il dit à la délégation, préparez-vous, ça les concernait aussi, qu'ils devaient se sentir visés. Eux aussi sont coupables. Eux aussi ont besoin de se repentir, de se préparer. Mais eux, ils étaient venus pour caser Jean dans un de leurs tiroirs, dans leur système. Mais il doit être le Messie, Élie ou le prophète. Il n'y a pas d'autre solution. Et là, ils sont à bout de leur système. Et à la place de se laisser interroger, interpeller, ils sont plutôt dans le questionnement, dans le négatif. Et pourtant, il y avait de quoi s'interroger. Ils avaient appris le miracle de la naissance de Jean-Baptiste, qui était quand même spécial. Ils avaient appris aussi qu'il y a quelqu'un maintenant qui vit d'une manière bizarre. Quand on regarde, Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. C'est quoi ce sauvage? C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais ça devait les interpeller. Il n'était pas en habit de roi. Il n'était pas à Jérusalem. Il ne cherchait pas à être reconnu, être habillé d'une manière... Oui, d'honneur. Ils devaient aussi être interpellés par le message de Jean. Repentez-vous, changez de vie, préparez-vous. Ils devaient s'interpeller par son ministère qui baptisait et surtout par son annonce. Il va venir. Et en fait, il augmentait énormément l'attente du peuple juif. Et à la place que l'interrogatoire résout le mystère de Jean, il leur ajoute un souci. Quelqu'un va venir. Mais c'est qui ce quelqu'un ? En attente du Messie, c'est ça l'objectif de Jean. Il ravive cette attente. Et il dit même, il est au milieu de vous. Waouh ! Alors là, s'il dit, il est au milieu de vous, c'est une autre façon de dire, c'est pas moi. C'était pas Jean. Mais c'est un autre. En étudiant le texte, j'étais émerveillé de voir. Il dit, il est au milieu de vous. Il dit pas, il sera. Il est. Ça veut dire qu'il est là. Et la question, c'est de le reconnaître. Il est au milieu d'eux. Et il détourne toute l'attention de cette délégation de lui vers Christ. L'attention, l'objectif, c'est qu'ils reconnaissent Jésus-Christ. Mais, à travers ces paroles, il a dit aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, je cherche le verset 26, il leur répondit, Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne le reconnaissent pas. Et au verset 31, il ajoute, « Je ne le reconnaissais pas. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. » Donc, en fait, on a l'objectif de reconnaître Christ, mais il y a le constat, vous ne le connaissez pas, moi je ne le connaissais pas. Et je propose qu'on lise la suite des versets. Le lendemain, il vit Jean venir à lui et dit, il vit Jésus, merci, venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi et moi je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifeste à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui, et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit, du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Donc, à un moment donné, à ce moment-là, Jean, il comprend, c'est lui. C'est Jésus lorsque la colombe s'arrête sur la tête ou l'épaule de Jésus. Et Jean comprend, c'est lui. C'était le signe spécial pour que Jean ne se trompe pas. Et en fait, Jean, il baptisait les gens. Et il ne savait pas, probablement, quel jour il viendra. Et probablement, il ne savait pas que c'était Jésus. Il y a des gens qui disent qu'ils ne le connaissaient pas. C'est improbable puisqu'ils étaient parentés. D'un côté, c'est possible, mais je vois plutôt dans le sens qu'ils ne le reconnaissaient pas. Mais avec cet événement-là, ils le reconnaissaient. Et dès lors, il le fera connaître. Il parlera de lui. de celui qui est plus grand, de celui qui baptise du Saint-Esprit. C'était mieux que l'eau. Ça s'accomplira à peu près 3 ans plus tard, à la Pentecôte, après la résurrection de Jésus-Christ. Mais Jean, il voit Jésus et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Les Juifs étaient habitués aux agneaux, et surtout les responsables du peuple, dans le temple. Tous les jours, il y avait des dizaines, probablement des centaines, parfois des milliers d'agneaux. Ils n'attendaient pas un agneau. Ils attendaient un roi. Et Jean leur dit, le Messie, c'est l'agneau de Dieu. Un agneau. Et ça montre qu'en fait, les responsables n'étaient pas prêts non plus. Et je dirais, en Europe, quand on parle aujourd'hui d'un agneau, ça semble bizarre, n'est-ce pas? Mais les connaisseurs de la Torah et des prophètes, l'agneau, c'était tout de suite un rappel. D'abord, à l'agneau pascal. Et là, on est bientôt dans Pâques. Cet agneau qu'ils ont sacrifié avant de sortir de l'Égypte pour épargner leur fils aîné, avant d'être libéré. Et c'est ça qui a permis la libération. Mais l'agneau avait encore une deuxième signification. En Ésaïe, il dit, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe a vu le Messie comme un agneau, comme l'agneau par excellence, l'unique, le parfait, l'agneau qui n'est pas pour Dieu, mais l'agneau de Dieu pour nous. Cet agneau qui porte le péché du monde. Je trouve ça intéressant que Jean, il inclut le péché du monde. Pas seulement les péchés des Juifs. Tous étaient concernés. Et en 1 Pierre, on trouve cette allusion aussi. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et il lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. L'agneau de Dieu. Et en fait, par cela, Jean, il prépare les personnes au Messie, qui ne sera pas le Messie honoré, le Messie roi, le Messie reconnu. Ce ne sera pas le Messie qui prend le pouvoir et chasse les Romains, mais il sera le serviteur et même le sacrifice pour ôter le péché du monde. Ce qui remplacera finalement les sacrifices d'animaux. Qui étaient offerts quotidiennement à l'époque dans le temple pour apaiser la colère de Dieu. Mais Jésus a porté cette place. Certaines traductions disent « il a porté le péché du monde ». Les deux sont justes, porter ou ôter. Tout ça ça a des conséquences. Quand Jean a parlé, voici l'agneau de Dieu, il y en a des gens qui sont touchés. Et on voit Jean, en Jean 1:35, les suivants. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus s'en retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi. » Ce qui se traduit « Maître, où demeures-tu ? » Et il leur dit, « Venez et vous voyez, et vous verrez. » Ils allèrent et virent où ils demeuraient. Et demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie !» Ce qui s'est traduit « Christ ». Il le conduisait vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas !» Ce qui se traduit « Pierre ». Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Ils ont parlé de l'agneau, et le voilà qu'il est là, l'agneau. Et Jean, il arrête son regard sur Jésus. Et je trouve ça intéressant, l'objectif de l'évangile de Jean et l'objectif de Jean-Baptiste sont les mêmes. Regardez à Jésus. Montrez qui est Jésus. Annoncez Jésus. Démontrez qui il est. Pour Jean-Baptiste, c'était l'apogée de sa vie. Christ était son message, son ministère. Le reconnaître, l'annoncer. Et le voici qui passe devant lui. Et si je comprends bien, c'est une deuxième fois qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et c'est là que les deux disciples commencent à suivre Jésus. Ils réalisent « On ne peut pas le laisser partir, il faut le suivre !» C'était l'objectif de Jean, de préparer les personnes. Je ne sais pas s'il avait calculé que ses propres disciples vont le suivre et ne plus être avec lui. Mais en tout cas, c'est le cas d'André et de Jean. Ils invitent leurs frères et ils les conduisent à Jésus. Et ce texte nous montre pas mal de caractéristiques de ce qui est un disciple de Jésus. Et on va les regarder rapidement. Un disciple montre Jésus ou fait connaître Jésus comme Jean-Baptiste l'a fait. Mais il va plus loin que ça. Un disciple, il écoute. Il écoute Dieu et le prochain. S'il n'écoutait que Dieu, il serait un érémite. Nous avons besoin de nous écouter aussi les uns les autres. Le disciple comprend que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau qui est mort à notre place, à la place du coupable, pour nous libérer. Le disciple découvre que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Le Messie veut dire envoyé. Celui qui était promis, il n'était pas un autoproclamé. Et il était annoncé depuis le début. Et c'est pour ça que nous lisons aussi l'Ancien Testament, parce que nous avons beaucoup d'indices vers Jésus, qui il sera, qu'est-ce qu'il fera. Entre autres, le disciple sait que Jésus-Christ est Dieu. Il dit, il était avant moi, alors qu'il est né après lui. Donc, ce mystère montre déjà qu'il était Dieu. Et le disciple, il suit Jésus-Christ. Il posait la question à ses disciples, « Que cherchez-vous ?» Et cette question, en fait, elle nous est posée si nous sommes des disciples de Jésus et si nous sommes ici dans l'Église. Que cherchons-nous en réalité en suivant Jésus? Je vous laisse un tout petit temps de réflexion avec cette question. Que cherchons-nous en suivant Jésus? Certaines personnes cherchent un soulagement, un guérisseur, des miracles ou autre chose. Les disciples ont dit « Rabbi, maître ». Ils cherchaient un maître, mais en fait, c'est bien peu de ce qu'ils venaient d'apprendre de qui est Jésus. Quand on dit l'agneau de Dieu. Et on voit que leur foi doit encore grandir. Et Jésus leur a dit, venez et voyez. Il fallait qu'ils viennent. Venir maintenant. Pas, est-ce que tu auras une carte de visite un jour, peut-être hein? Venir et voir. Un disciple, il demeure aussi avec Jésus. Et je trouve ça intéressant. Lorsque Jean écrit cet évangile, c'est à environ 50 ans après cet événement. Et Jean se rappelle de l'heure lorsqu'il a rencontré Jésus. Il dit vers la 10e heure. Je crois parfois on peut vivre quelque chose de très fort lorsqu'on rencontre Jésus et on s'en rappelle. On se rappelle le lieu, on se rappelle l'heure pour certains, pas pour tous. Mais l'essentiel c'est de rencontrer Jésus. Et les disciples, ils dirigent où il a le désir de diriger des gens vers Jésus, d'autres personnes. Il faut que d'autres connaissent cette personne merveilleuse. Et dernière chose, le disciple vit le ciel ouvert. Je n'ai pas encore lu ce verset, c'est le verset 51 du chapitre 1. Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Il voit le ciel ouvert. Parce que le péché, en fait, il avait fermé le ciel. Ésaïe 59 dit, Sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Mais le ciel, maintenant, il est ouvert par Jésus-Christ. Maintenant, on peut l'écouter. Maintenant, on peut parler à Dieu. Avoir une relation avec Dieu. Un dialogue par la prière. On peut vivre ses interventions. Vivre qu'il est un refuge, qu'il est la paix et qu'il est notre espérance. Ça vaut le coup de devenir un disciple. En conclusion, juste quelques mots. Dieu a préparé l'arrivée du Messie par Jean-Baptiste et par d'autres. Et Dieu a donné les éléments nécessaires pour le reconnaître. Christ, il est venu comme l'agneau de Dieu. Et Christ, il a ouvert la voie pour que notre péché soit enlevé. Maintenant, c'est à nous. Est-ce que nous voulons vivre en tant que vrais, véritables disciples et suivre cet agneau? C'est la question que je vous laisse. Et je vous encourage peut-être à lire le chapitre 1 de l'Évangile de Jean dans le courant de la journée.